Bonjour à chacune et à chacun. Maintenant que les enfants sont partis, on va pouvoir regarder des dessins animés. Parce que sinon, ils vont croire qu'ici, on passe notre temps à s'amuser. Donc c'est bien, on les envoie dans leur salle à côté. Ah. C'est bon, ils sont tous bien dans leur salle. Impeccable. Alors du coup, on va faire ce qu'on a dit. On va commencer à regarder des dessins animés. Et je vous invite dans la première petite vidéo à vous considérer comme des petites souris. Alors peut-être qu'on va éteindre les projos. Et certains ont la référence, certains ne l'ont pas, certains vont la découvrir. Et je vous invite à vous considérer comme des petites souris juste avant de démarrer 2024, même si ça fait déjà 7 jours qu'on a un pied dedans. Donc les petites souris, c'est parti.
Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Lisez-moi donc la checklist, petit gars.
Oui. Lunettes en place.
OK.
Volet, position, décollage.
OK.
Gouvernail.
OK, à droite et à gauche.
Si vous ne réussissez pas à décoller du premier coup, recommencez.
Et c'est parti!
Je persiste à dire qu'on aurait dû prendre le train.
Alors, les petites souris sont rassurées, vous êtes accrochées à votre siège, j'espère. J'espère que celui sur qui nous comptons est un petit peu moins hasardeux au décollage que notre ami l'Albatros, là, qui a décidé d'emmener, qui a été choisi pour emmener les petites souris en mission, là où elles doivent aller. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, mais maintenant vous le saurez, il y a un groupe qui a été, à qui on a demandé de rester au culte ce matin. Il s'agit du groupe des Albatros. C'est le groupe des plus grands de l'église junior. Ce sont les 4e et 3e. Parce qu'ensuite, quand ils sont en seconde, eh bien, ils vont au groupe de jeunes. Ils ne sont plus des Albatros. Il faudra peut-être choisir un jour un nom pour ce groupe. Si le groupe de jeunes veut choisir un nom d'oiseau, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il pourrait y avoir des idées... Peut-être à soumettre donc à Jean-Paul, qui s'occupe plus particulièrement de l'accompagnement pastoral du groupe de jeunes. Et peut-être que nous restons des albatros toute notre vie. Alors, elle aime bien être citée en public, mais j'ai une affection toute particulière pour une de nos sœurs, qui, après avoir quitté les albatros, n'a pas voulu quitter les albatros, et a continué avec les albatros en s'occupant des albatros. Les albatros, ce groupe de 4e, 3e, et c'est notre sœur Alban qui a eu à cœur eh bien, de s'occuper de ce groupe en particulier. Et pour nous accompagner dans ce groupe, et je vais leur demander de se lever, il y a Marquis, il y a Coralie, il y a Alban évidemment. Et Alban est peut-être là-haut en régie, ou peut-être elle était là tout à l'heure. Voilà. Et puis il y a moi-même. Et puis je vais demander aux albatros de se lever. Comme ça, vous pourrez les regarder, les voir. Parce qu'il y a des albatros qui sont debout. Voilà. Eux aussi, ils aiment beaucoup, beaucoup quand on leur dit de se lever et de se mettre. Voilà. Merci, les albatros. Et alors, pourquoi est-ce qu'à l'époque, nous avons des personnes qui ont connu l'histoire ici, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom albatros, cet oiseau si majestueux qui a une telle envergure, qui peut faire des centaines de kilomètres sans se ravitailler et qui peut... voler au-dessus des mers, sans se poser, et puis qui a l'air quand même si maladroit pour transporter des petites souris, et qui a beaucoup de mal au décollage. Nous allons découvrir ça pendant ce temps que nous passons ensemble. Prions. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous lisons dans 2 Timothée qu'elle est inspirée par toi et qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et nous instruire dans la justice, afin que chacun d'entre nous, homme ou femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous te remercions d'ouvrir nos oreilles, nos bouches, aussi, Seigneur, pour témoigner de ta parole, ouvrir nos oreilles pour qu'elles soient prêtes à entendre ta parole. Amen. Alors, on a cité quelques personnes, mais ici, peuvent lever la main, parce qu'on a déjà fait beaucoup de squats depuis le début du culte, peuvent lever la main ceux qui sont concernés directement par un albatros. Là, directement. Alors, parents, grands-parents, oncle ou tante. Là, on se dit, est-ce que mon neveu ou ma nièce, il est bien aux albatros? Vous pouvez baisser la main. Frères ou sœurs qui sont concernés par les albatros. Voilà. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et puis, on a aussi tous ceux qui sont tout autour, qui ne sont pas directement concernés, mais qui sont valeurs d'exemple. Parce que les albatros, qui sont parmi nous, eh bien, comme tous les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Et ils regardent les grands qui ne sont plus des albatros et qui savent voler maintenant, qui savent décoller, qui savent bien atterrir. Et comme j'ai cité, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, au fur et à mesure des années, j'aimais beaucoup utiliser ce verset quand j'avais quelqu'un qui me contredisait dans mes groupes d'école du dimanche ou qui commençait à vouloir argumenter. Et puis j'étais à court d'arguments parce qu'en fait, mon petit gars ou ma petite jeune fille, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, etc. etc. Alors, s'il te plaît, tu fais avec. Hein, et puis tu demandes à papa et maman si tu comprends pas. Ils sont là aussi pour t'enseigner. Puis c'est marqué que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et puis, il y a d'autres promesses que j'ai beaucoup utilisées, parfois à tort. Comme dans Josué 1, 8, verset 9. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, quand tu vas sortir de ce temps d'église junior ou d'école du dimanche, applique bien Josué 1, 8 et 9, et puis tu réussiras dans tes entreprises, puis tout ira bien. Et puis, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et les jeunes, ou moins jeunes, mais les jeunes, ça leur donne du baume au cœur. Ils disent, je vais faire comme Josué. Je vais bien appliquer Josué 1, 8 et 9. Et ils partent avec cette promesse dans le cœur, cette promesse dans la tête. Et puis la vie avance. Et puis on se dit, mais il était bien gentil de dire ça à Josué. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans ma vie? Pourtant, je lis ma Bible régulièrement. J'ai le sentiment que j'applique ce que... ce qui m'a été enseigné, puis la vie, elle se passe autrement. La vie, elle se passe autrement. Et puis, il y a aussi ce proverbe, le proverbe 22,6, qui déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bien. Alors, si ce verset, qui est d'une sagesse profonde, inspiré par l'Éternel, nous enseigne à éduquer et à former nos enfants, eh bien, on prend quand même un grand risque avec ce verset. Un petit peu comme l'albatros qui veut décoller, là, puis il y a du vide derrière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main. Les exercices physiques sont terminés pour maintenant. Mais est-ce que l'on a en mémoire quelqu'un dans notre famille, plus âgé que vous, pour certains, ça va commencer à devenir difficile. Plus jeune que vous, ou de votre entourage, que l'on a instruit dans la voie qu'il doit suivre, et que quand il a pris de l'âge, eh ben, il s'est quand même détourné. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce proverbe 22:6 ? Et puis du coup, à quoi ça sert, tout cela ? Qui sommes investis avec les albatros, on va citer les autres, hein. Il y a les mésanges, il y a les colibris, les tout petits, il y a les colombes, il n'y a plus les colombes, il y avait les colombes. Qui c'est qui reste encore ? Il y a les toucans, et je me suis toujours posé la question, pourquoi les toucans ? Pensez à un toucan. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce nom, les toucans ? Parce que le toucan, ça a quand même un bec qui est aussi long que son corps, quoi. Donc, je ne sais pas. Les toucans. Les toucans. Et donc, à quoi ça sert ? On va les instruire, et puis on va les relâcher dans la nature, dans ce monde. Et puis, il y a ce proverbe qui nous dit que si on instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera avancé en âge, il ne s'en détournera pas. Alors, ça met une pression, ça met une grande responsabilité sur chacun d'entre nous qui sommes amenés à enseigner, qui sommes amenés à témoigner du message de l'Évangile envers des enfants, envers des jeunes, mais aussi envers tous ceux qui sont plus jeunes que nous dans la foi. Ça met un peu de pression parce qu'on se dit, ben voilà, une fois qu'on a délivré une parole, ben on est un petit peu responsable, et puis pas qu'un peu. Les Écritures nous disent que ceux qui enseignent seront jugés avec plus de rigueur. C'est peut-être pour ça que tout le monde ne se bouscule pas quand Laurent, en début d'année, fait le planning et dit « Alors, les prédications de l'année. » Les prédications de l'année. Je pense qu'il essaie de choisir avec discernement. Je pense que c'est sûr, même. Et on prend un fardeau sur nos épaules quand on se retrouve en situation de transmettre la parole du Seigneur. Il en est de même pour nos frères et sœurs qui sont à l'église junior, parce qu'ils transmettent, ils enseignent. Alors notre ami l'albatros, il est arrivé à décoller, oui, tout à l'heure. Les souris ont trouvé que, notamment la petite demoiselle, elle trouvait qu'il volait divinement bien. Voilà, elle l'a dit à la fin. Et j'aimerais bien avoir la deuxième vidéo, s'il te plaît, Tim. Parce que dans cette même histoire, cet albatros, il va devoir décoller une deuxième fois.
Par tous les diables de l'enfer! Quelle pollution! Mais regardez où vous allez!
Merci. Alors, sur sa route, pour prendre son envol, eh bien, la piste de décollage n'était pas particulièrement bien préparée. Et puis, il a rencontré de l'adversité. Un petit peu, quand même. Hein. Bon. Est-ce que, et encore une fois, pas la peine de lever la main, est-ce que nous avons déjà rencontré ce genre de situation dans notre vie, où nous passons à travers un moteur, nous passons à travers une machine qui nous empêche de décoller, qui nous fait ressortir, il était tout blanc au départ, qui nous font ressortir vraiment abîmés. Eh bien, dans notre décollage, dans notre vol, dans notre vie, eh bien, même si nous pouvons faire les nôtres, ces promesses que nous avons lues, il y a l'adversité. Il y a l'adversité, il y a les choses qui n'étaient pas prévues sur sa trajectoire. Il n'avait pas prévu qu'il y aurait cet engin qui viendrait le télescoper et lui donner des difficultés. Mais vous avez vu à la fin, il est quand même dans l'air et il a quand même décollé. Notre ami l'albatros de Bernard et Bianca. Et je veux bien la troisième vidéo, s'il te plaît. Et nous ne sommes plus en dessin animé. Cette troisième vidéo, Vas-y, tu peux y aller. Elle nous montre un poussin qui est en train d'observer un adulte qui, une fois avoir bien raté son atterrissage, fait comme si de rien n'était, repart. Et je me demande si ce poussin apprend l'atterrissage en regardant. Est-ce qu'on peut la revoir, s'il te plaît? Parce que c'est vraiment succinct. On a l'impression que c'est... Tiens, je vais te montrer comment on fait. Tac! Voilà. Et c'est assez fréquent chez cet animal. Et je me pose la question de la valeur d'exemple, merci Tim, de la valeur d'exemple que les albatros adultes, c'est-à-dire un petit peu tous ceux qui sont là, avons vis-à-vis de notre progéniture ou des plus jeunes à qui nous montrons l'exemple. Eh bien, c'est simple. C'est simple. Et il faut de l'humilité. Nous restons pêcheurs, nous restons avec nos difficultés, bien qu'aidés par notre Seigneur, bien qu'essayant de nous rapprocher de la sainteté, eh bien, nos enfants, ils nous voient bien souvent comme ça. Et ce petit albatros, j'espère qu'il va avoir d'autres exemples, d'autres albatros qui vont atterrir comme il faut, parce que s'il reste là-dessus, ben, il se dit que c'est comme ça qu'il faut atterrir. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et ces mots nous rappellent que la Bible ne provient pas d'interprétations humaines ou de simples pensées qui seraient bonnes, qui seraient bien religieuses, qui seraient bien morales. L'écriture est le souffle même de Dieu qui est transmis à travers des hommes ou des femmes qui sont choisis pour écrire sa parole. Enseigner la parole, c'est notre manuel de vie qui nous guide sur le chemin de la vérité et de la sagesse divine. Il faut en être convaincu. On ne part pas perdant quand on enseigne. Et puis pour convaincre, parce que cette parole, elle nous confronte à notre péché. Elle nous rappelle notre besoin constant, nous qui enseignons, de repentance et aussi de la grâce de Dieu. Elle nous rappelle, quand elle dit qu'elle est bonne pour corriger, qu'elle n'est pas là pour nous sanctionner, mais bien pour nous corriger. Parce qu'à travers les pages des Écritures, Dieu nous redresse, nous réoriente et nous purifie. Et le verset dit ensuite, pour nous instruire dans la justice, car elle nous équipe pour vivre une vie juste et droite devant Dieu, reflétant son caractère et son amour. Parce que l'humilité que nous devons avoir quand nous transmettons, c'est que ces jeunes ne regardent pas à nous, mais regardent au Seigneur. Et puis, ce verset se termine en disant que l'homme ou la femme de Dieu sera accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on enseigne les enfants, quand nous enseignons nos plus jeunes, quand nous transmettons, est-ce que nous avons en tête cette fin de verset qui dit « afin que ce petit gars, ou cette petite fille qui est là, ou que ce jeune, cette jeune, soit un jour propre à toute bonne œuvre. » Les Écritures ne visent pas simplement à nous informer, mais à nous transformer. Elles façonnent notre caractère, renouvellent notre esprit et nous préparent à accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Plus qu'un livre, il s'agit du témoignage vivant de l'Éternel, pour nous guider, pour nous enseigner et nous transformer à l'image de son Fils. Alors si nous nous engageons à plonger profondément notre esprit dans sa parole, à la méditer jour et nuit, afin de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur, notre vie sera un reflet fidèle de l'amour et de la vérité trouvée dans les pages sacrées des Écritures. Le temps passe, et on s'est dit que peut-être on a raté une occasion, peut-être qu'on a enseigné et puis c'était mal fait, on a transmis et puis c'était mal conduit, on a sanctionné plutôt que de corriger, On a asséné les versets de la Bible à coups de marteau pour que ça rentre. On a mis de la culpabilité sur un jeune ou une jeune chrétienne, ou un jeune ou une jeune convertie. C'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pas ce que le Seigneur veut. Nous devons être inspirés et prendre au sérieux notre rôle dans l'éducation, dans l'exemple, dans la formation de nos jeunes, en les guidant avec amour et vérité dans la voie de la sagesse et de la foi, tout en gardant conscience que nous aussi, nous sommes en cours de formation, quel que soit le moment de notre vie. Alors, le jeune poussin albatros, un jour, il va prendre son envol. Un jour, il va prendre son envol. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que cet animal, qui est si majestueux, on va avoir la vidéo 4, s'il te plaît, Tim, pourquoi cet animal qui est si majestueux, qui peut parcourir des kilomètres et des kilomètres, voici, tu peux laisser le son. Tu peux laisser le son avec, merci Tim. Qui peut parcourir des kilomètres et des kilomètres, on dirait qu'il fait zéro effort. Là. Laurent nous a parlé de l'aigle la semaine dernière, et on voit que cet animal, il a l'air bien loin de celui qui n'arrive pas à décoller avec les petites souris sur le dos, il a l'air bien loin quand même de celui qui tout à l'heure a atterri de manière très très maladroite. Voilà. Cet animal, là il est dans son élément, il est dans l'élément pour lequel le Seigneur l'a placé. Des kilomètres et des kilomètres, des heures et des heures de vol. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Pourquoi cet animal, qui a l'air si gracieux, si puissant, si à l'aise, là où il est, une fois sur la terre, il fait des culbutes au moment d'atterrir, il se dandine comme une volaille pas très 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 gracieuse quand il est au sol, il a du mal à décoller. Par contre, une fois qu'il est parti, il est parti. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la génétique, je ne suis pas très très loin de la science en termes de connaissances. Et cet animal a été créé pour voler, il a été créé pour parcourir tous ces kilomètres dans le ciel. Et au demeurant, ce n'est pas très grave s'il n'est pas très à l'aise une fois sur Terre. C'est pas très grave s'il n'est pas à l'aise quand il est sur Terre. Et il me semble que nous sommes appelés à la même chose, à la même destinée. Ce n'est pas très grave si nous sommes décalés quand nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas grave si nous sommes peut-être maladroits aux yeux des hommes et des femmes qui nous entoure, dans notre entreprise, dans le milieu dans lequel nous vivons, au collège, au lycée, dans nos études. Ce n'est pas grave si nous avons l'air un petit peu décalé, si nous avons peut-être même l'air risible. Nous sommes appelés à une autre destinée que de nous promener en nous dandinant sur cette terre. Cet animal, alors mécaniquement, il a les pattes qui sont un petit peu trop reculées pour être à l'aise et faire de la course à pied. Il a son poids qui est réparti d'une certaine manière. Il a ses ailes qui sont construites divinement. Et c'est vrai qu'à première vue, il n'a pas l'air d'être super à l'aise quand il est au sol. Par contre, une fois qu'il a décollé, il est lancé, il est parti. Et c'est un des rois de la mer. Il va même dans l'eau et il repart. Il va même dans l'eau et il repart. Alors en 2024, si nous sommes des petites souris et que nous voulons nous élancer pour prendre notre envol sur cette année, eh bien nous sommes entourés de personnes, nous sommes tour à tour des souris ou tour à tour l'albatros, parce que parfois nous sommes au bénéfice de ceux qui nous emmènent. Et quand on est au bénéfice de ceux qui nous emmènent, de ceux qui nous portent, eh bien on a le devoir d'être comment dire, conciliant avec ces personnes qui nous emmènent. Parce qu'ils nous emmènent avec leurs talents, ils nous emmènent avec les dons que le Seigneur leur a donnés. Ils nous emmènent aussi avec leurs faiblesses et avec leurs difficultés. Donc comme nous sommes au bénéfice, soyons indulgents et soyons humbles. Et puis quand c'est nous qui portons les souris, parce que ça peut arriver, eh bien, c'était quoi la consigne sur le plan de vol ? Si le décollage ne se fait pas, recommence. Ça rassure, hein ? Ça rassure. Le décollage a été raté, on s'est peut-être pris une belle boîte en bout de piste. Si le décollage n'a pas réussi, recommence. Recommence. Josué a été encouragé à ne pas laisser la loi de Dieu s'éloigner de sa bouche, mais à la méditer jour et nuit. La parole de Dieu devait être au centre de sa vie pour guider ses pensées, ses actions et ses décisions. Et en méditant et en agissant selon la parole de Dieu, Josué allait être prospère et réussir dans tout ce qu'il entreprendrait. Cette promesse n'était pas basée sur ses propres capacités, mais sur la puissance et la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Et à plusieurs reprises, Josué, qui est devant un grand défi, est exhorté, encouragé à rester fort et courageux, à prendre courage, ne pas avoir peur, à conduire son peuple dans la terre promise, même s'il y avait des défis, des dangers, des géants, le peuple lui-même qui allait mettre des bâtons dans les roues, bien souvent, pour les conduire dans cette terre promise. Il allait y avoir des défis, mais Josué devait se souvenir que Dieu était avec lui. Et la présence de son Seigneur était une garantie de force, de protection et de victoire. Alors les comparaisons avec des oiseaux, avec la nature, avec des dessins animés, avec des illustrations, évidemment, ça a une fin. Évidemment, ça a une fin. Nous ne sommes pas des albatros, nous ne sommes pas des oiseaux. Dieu nous a créés supérieurs à la nature, supérieurs, parce qu'il nous a créés avec un lien direct avec sa personne. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence, et cette différence, elle nous permet d'engager avec foi les divers versets qui parfois peuvent sembler lourds. Elle nous permet d'engager avec foi que si l'on instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, plus tard, il ne s'en détournera pas. On le fait avec foi. On vit avec foi aussi ce verset qui dit dans Romains que toute l'écriture est inspirée de Dieu. On le fait avec foi parce que notre intelligence ne suffit pas. On le fait avec foi parce que notre conviction personnelle, intellectuelle, ne suffit pas. On le fait avec foi parce que on sait au plus profond de nous, d'où vient ce message. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que nous tous, ici, femmes et hommes de Dieu, jeunes, moins jeunes, puissent accomplir toutes les bonnes œuvres qui sont prévus pour cette année qui arrive. Amen. J'invite les personnes qui ont été désignées pour le temps de Sainte-Seine. C'est à ce moment-là qu'on espère que des personnes ont été désignées, mais sinon on en trouvera. Des personnes ont été désignées, merci. Et puis j'invite aussi l'équipe chant et louange à revenir. Il est écrit « Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous rencontrerez. » Et je suis toujours étonné que le Seigneur a institué un temps de repas, comme ça, tout simple, pour célébrer quelque chose de triste, a priori, au moment où il l'a fait, quelque chose de dramatique, de tragique, au moment où il l'a fait, pour qu'on se souvienne de ce moment qui a été dur, de cette épreuve, mais pas seulement, pour qu'on l'en célèbre aussi un moment de joie plus tard, quand on le rejoindra. Nous célébrons deux anniversaires quand nous prenons ce repas que le Seigneur nous a donné. Nous célébrons et nous nous rappelons ce qu'il a fait pour nous à la croix. Quelques jours après, trois jours après, d'être sorti du tombeau. Et qu'un jour, selon sa promesse, eh bien nous le ferons avec lui. Alors j'invite les quatre personnes à prendre la parole s'ils ont envie de prier pour ce temps de repas, après quoi nous prendrons un chant.